moment à passer, ne plus y penser et puis se lasser, agacer le tout, perdre le goût de tout ce qui eut avant. Quand tu es des enfants, te donne l'envie de devenir grand, peut-être même géant. L'avenir appartient à tous ceux qui le prennent. L'avenir appartient à qui? L'avenir appartient à tous ceux qui le prennent. L'avenir appartient à qui? Appartient-il à qui? Et l'espoir de voir l'histoire tourner en ta faveur, de goûter la saveur de la vie dans un monde meilleur. Ouais. L'avenir appartient à tous qui le prennent. L'avenir appartient à qui? L'avenir appartient à tous qui le prennent. L'avenir appartient à qui? Appartient-il?
Le bonheur, c'est le progrès, fait un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Oui, il faut arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les sous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle.
Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio. C'est trop les midis. Mes parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures. Je suis chômeur. Je suis pointé. Ok, moi.
Salut
à tous.
Le micro de la tech, ça sera...
Ouais.
Non, ça marche pas. Vous m'entendez, vous?
On s'entend moyen. Ouais.
En tout cas, moi, je t'entends.
Là, maintenant, c'est bon. Là, on s'entend tous bien. Salut. Donc, c'est le radio, c'est la radio Canu, le Canu Info du lundi.
C'est exactement ce que vous écoutez.
Comme d'hab.
Et ouais. Aujourd'hui, on va faire encore une fois une émission un peu courte, en partie parce qu'on subit un certain nombre de défections et même un peu de sabotage, parce qu'on a perdu notre clé USB. Et surtout, on aimerait bien encore une fois aller à l'assemblée, à l'AG des Gilets jaunes.
Qui a lieu à la Bourse du Travail.
Ouais. Tout de suite, maintenant, pour ceux qui préfèrent...
Enfin non, écoutez l'émission, allez-y après.
On fait court.
On peut aller aussi en écoutant.
Mais, ouais, on va quand même vous parler vite fait à l'international de Macron en Égypte et de la fin du procès à la haie de Laurent Gbagbo.
Voilà.
Quatre petits sujets au national. On va vous parler des foulards rouges, de l'évasion d'un détenu devant le tribunal de Tarascon, de la répression des Gilets jaunes. Peut-être même on fera la répression des Gilets jaunes avant.
Ouais.
Et puis d'autres nouvelles des Gilets jaunes qui s'attaquent à Paris aux Gilets jaunes. Non, c'est pas les Gilets jaunes qui s'attaquent aux Gilets jaunes.
C'est les FAF qui s'attaquent aux Gilets jaunes.
Qui s'attaquent aux Gilets jaunes à Paris, à Lyon et de ce qui se passe à Caen aussi. Ça passe pas exactement pareil. Des petites nouvelles de l'Amphiz et peut-être un petit agenda. On commence par l'Égypte.
Alors, vous avez dû en entendre parler aujourd'hui si vous avez écouté les informations nationales. Macron est en Égypte. Donc, Macron est en Égypte et considère ce pays comme un pays ami. C'est d'ailleurs un pays qui est considéré comme un pays ami et allié par l'intégralité des Occidentaux, mais la France un petit peu plus. Hein, la France vraiment en chef de file. Alors, quelques exemples de cette amitié profonde entre la France et l'Égypte. De 2013 à 2017, la France a livré plus de 1,4 milliard d'euros d'équipements militaires et de sécurité à l'Égypte. Alors, on a des navires de guerre, des avions de combat, des véhicules blindés, ainsi que des outils de surveillance et de contrôle des foules, car la France, ça, elle sait bien faire. Le mois dernier, autre exemple, Florence Parly, la ministre donc de la Défense française, la ministre des Armées même, on dit plus ministre de la Défense, a coupé le ruban du premier salon de l'armement égyptien aux côtés d'Al-Sissi. Al-Sissi, c'est le président dictateur actuel de l'Égypte. Alors, l'argument principal pour toutes ces ventes d'armes, eh bien, c'est encore et toujours la lutte antiterroriste. D'ailleurs, l'Égypte et Al-Sissi n'utiliseraient les armes françaises que pour lutter contre le terrorisme. C'est bien connu. Enfin, c'est ce que nous dit Macron, c'est ce que nous dit Florence Parly. C'est marrant, Amnesty International et la Fédération Internationale des Droits de l'Homme n'ont pas tout à fait le même avis. Par exemple, ce qu'ils nous disent, c'est que des blindés français ont été utilisés pour disperser violemment des sit-ins pacifiques. Que les outils de surveillance fournis par la France sont massivement utilisés pour intercepter les communications et contrôler les mouvements sociaux, notamment contre des syndicalistes, des militants LGBT, des militants politiques ou encore des universitaires. De plus, dans le cadre donc de ce fameux combat antiterroriste, l'Égypte commet exaction sur exaction, notamment ces dernières semaines et ces derniers mois dans la péninsule du Sinaï, avec des destructions massives. Alors, et illégal, certes, mais qui s'intéresse finalement pas grand monde, visiblement, des destructions massives d'habitations et des expulsions forcées de milliers d'habitants du nord du Sinaï, sans aide et sans aucun hébergement temporaire pour les personnes obligées de quitter leur foyer. L'ONG Human Rights Watch enfonce le clou en prouvant que l'armée ainsi que la police ont procédé à de nombreuses arrestations arbitraires, des disparitions forcées, des actes de torture, des viols, des exécutions extrajudiciaires et en tout ça en limitant le plus possible l'accès aux observateurs indépendants. Tout ça dans la péninsule du Sinaï. Mais Dans toute l'Égypte également, des témoignages, et pas seulement quelques-uns, hein, parlent d'actes de torture et de disparition forcée au nom de cette fameuse lutte antiterroriste. Or, il n'y a pas que les frères musulmans qui subissent la répression féroce d'Al-Sissi. Vous savez, les frères musulmans avaient pris le pouvoir à la chute de Moubarak, notamment, et sont considérés comme une organisation terroriste par les Occidentaux et par Al-Sissi. Certaines organisations laïques, également révolutionnaires, qui ont joué un rôle clé dans le renversement de Moubarak, subissent cette répression. Les prisons sont surpeuplées, la peine de mort existe toujours, les conditions de détention sont particulièrement brutales. Selon l'ACLED, alors qui est une ONG anti-armes dont je vous épargne le nom qui est super long, l'Égypte est devenue en décembre le troisième pays le plus actif en termes de violence sur le continent africain, derrière la Somalie et le Nigeria. Alors, le soutien de la France envers l'Égypte, c'est un soutien total et inconditionnel, il est politique, économique et militaire. L'impérialisme français est donc à son comble en Égypte. Macron, comme ses prédécesseurs, permet au patronat français du complexe militaro-industriel de s'en mettre plein les poches sur le dos des civils égyptiens, des dissidents et des opposants, du dictateur qu'on peut largement considérer donc aujourd'hui comme sanguinaire, Al-Sissi. Ceci n'est certes pas une surprise, mais nous continuerons à souligner et à dénoncer systématiquement le rôle de l'impérialisme français en Afrique qui n'est visiblement pas prêt de se terminer.
Continuer par se poser des questions sur le procès à l'AE.
Ouais, quelle belle transition. Alors, on pourrait se demander, enfin, pourrait-il échapper à Madame Fatou Fensouda, le procureur de la CPI, procureur. Si vous savez, la CPI, c'est le procureur, c'est la Cour pénale internationale. Depuis deux semaines, l'affaire de l'ex-président ivoirien fait la une de plusieurs journaux, radio, télévision. Le débat revient à la place publique entre ceux qui souhaitent sa libération et d'autres qui pensent que le procureur peut en avoir des éléments nouveaux qui aideraient la CPI à condamner l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Bélé-Goudé. Le choix, on peut dire, le choix des uns et des autres ici, je dirais plutôt qu'on soit pour ou contre la libération de l'ancien président, reste avant tout des discours subjectifs. Mais par contre, les victimes pendant la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, ce sont des faits réels qui se sont produits à un moment donné, quelque part en Côte d'Ivoire. Pour rappel, à l'époque, Alassane Dramane Ouattara était à la course présidentielle contre le candidat sortant Laurent Gbagbo, le président d'alors. La crise a commencé à cette époque quand Laurent Gbagbo avait refusé de reconnaître les résultats publiés par la CENI, dont il avait demandé le recomptage de voix. Chose que Dramane Ouattara n'a pas voulu entendre. C'est la fuite, le déclic pour massacrer plus de 3 000 victimes, de plusieurs femmes violées et des personnes handicapées à vie. Après son arrestation en avril 2011 par les forces de Dramane Ouattara, soutenues par l'ONU et la France sous le règne de Sarkozy, l'ami, vous savez, longue date de l'actuel président ivoirien, Dramane Ouattara, qui disait que s'il avait 5 amis dans le monde, Sarkozy fait partie. Donc, on ne doute pas peut-être l'amitié que ces deux hommes ont entretenue depuis un moment. Parce que même l'ex-président Sarkozy avait dit « On a sorti Gbagbo et on a installé Ouattara ». Donc c'est sa phrase à lui. Peut-être on pourrait dire, après 7 ans de détention de l'ex-président et Charles Bélé-Goudé, chef du mouvement des jeunes compatriotes, ont été acquittés de l'accusation de crime contre l'humanité. Mais cette question n'est qu'une hypothèse, car cette liberté a été remise en cause par le procureur Fatou Bensouda, qui demande une nouvelle audience pour apporter des éléments, disons des éléments nouveaux. Donc l'information dans cette histoire, Laurent Gbagbo et son bras droit seront amenés à nouveau à comparaître devant les juges. Voilà pourquoi le 1er février est retenu pour l'auditionner les deux accusés. Peut-être, disons, c'est le début d'un nouveau feuilleton à la brésilienne. Même si au début, Laurent Gbagbo et les partisans de Laurent Gbagbo apprécient et applaudissent, si vous voulez, la victoire. Et pour eux, c'était la réconciliation nationale. Tout de même, il crie aussi un scandale politique, comme selon, disons, un proche de Laurent Gbagbo, Guy Albert. Lui, vous savez, c'est... Il était, si vous voulez, responsable Afrique du Parti Socialiste, fidèle ami de Laurent Gbagbo, qui estimait que c'était un bras de fer que le procureur Fatou Bensouda a engagé contre Laurent Gbagbo. Donc, de toute façon, ce qu'on peut retenir ici, dans cette histoire, Qu'est-ce que c'est un procès? On peut dire que c'est un procès purement politique, car on a vu par le passé, si vous voulez, la Cour pénale internationale avait convoqué, et disons d'autres aussi, présidents qui étaient en exercice, qui ont commis des crimes, par exemple en Congo. On peut, si vous voulez, nommer certains acteurs politiques de ce pays qui ont été aussi condamnés à la haine. Disons 18 ans de prison, mais à la fin, on a vu qu'ils ont été libérés. Donc, cette affaire, si on peut retenir une information au niveau dans cette affaire ivoirienne, on pourrait se demander pourquoi une justice à deux vitesses. Dans une guerre, vous savez, moi je pense, dans une guerre, il y a toujours des adversaires. À mon avis, peut-être on pourrait être d'accord aussi, il y a des groupes armés qui sont affrontés. De deux côtés, il y a des victimes. Alors, pourquoi entendre et écouter un seul côté? Pourquoi une justice des vainqueurs? Le plus perdant dans cette histoire, je dirais plutôt, c'est les victimes. Les victimes et les proches qui ne verront jamais la justice, parce que la justice, déjà, elle est inféodée au vouloir de certaines personnes. Les gagnants, ce sont les avocats qui seront payés à des millions d'euros pour défendre des complices des crimes de guerre.
Merci. Sans transition, je vous propose de vous parler d'abord des Gilets jaunes, parce que j'ai l'impression que les foulards rouges, on les comprend différemment quand on a fait un petit topo de la répression et de la mutilation en cours. Parce qu'au niveau mutilation, on en est où? On en est à au moins 20 éborgnés à l'heure où je vous parle, alors que jusqu'à 2018, on était à une moyenne de 2 par an. 4 mains perdues, une morte. Une personne ayant perdu l'audition, mais aussi il y a des pieds, des mâchoires, des fractures crâniennes et tout un tas de joyeusetés. Et pour une période de seulement 2 mois, c'est considérable. À titre de comparaison, entre 2001 et 2018, en 18 ans donc, il n'y a eu que 3 mains arrachées dans des mouvements sociaux. Et ce n'est pas surprenant étant donné qu'en 3 jours de manifestation, je parle du fait que là, ça, on a eu beaucoup d'éborgnés et de mutiler cette année-là et en fin 2018, c'est que sur les 3 premiers samedis de manifestation Gilets jaunes, il y a eu au moins 10 000 grenades de désencerclement qui ont été lancées, soit autant que toute l'opération César à Notre-Dame-des-Landes. Après le 12 janvier, le ministre de l'Intérieur reconnaissait lui-même 1700 blessés parmi les manifestants et une centaine de blessés graves, en précisant bien sûr que cela inclut les blessés par les manifestants eux-mêmes ou ceux qui se sont fait mal par accident. Le collectif Désarmons-les, qui est un collectif qui milite pour qu'on désarme la police et qui fait beaucoup d'informations sur justement les personnes qui sont mutilées par la police. Donc le collectif Désarmons-les recense lui avec certitude 124 blessés graves. C'est un recensement non exhaustif, mais qui est précis, et tous les blessés ont des noms et des preuves. Mais surtout, le collectif trouve difficile à croire que le chiffre de 1700 blessés soit réel, et il estime plutôt à 2000 ou 3000 blessés uniquement dus aux forces de l'ordre. Pourquoi est-ce qu'il ne croit pas aux chiffres du gouvernement? Tout simplement parce que ce chiffre ne prend en compte que les chiffres remontés par les hôpitaux, alors que beaucoup de personnes soit ne déclarent pas avoir été blessées en manif pour ne pas être retrouvables, vu qu'il arrive en effet que la police, qui chercherait quelqu'un en particulier, aille la chercher jusque dans les hôpitaux, et donc disent être tombée ou avoir eu un accident de la vie quotidienne. Ou alors, si leur blessure ne va pas jusqu'à la perte d'un membre, certains se contentent d'aller voir un médecin généraliste, ne serait-ce que parce que c'est parfois moins long d'être pris en charge que d'être pris en charge aux urgences. Et les médecins généralistes ne communiquent pas de chiffres sur les personnes blessées en manifestation qui passent dans leur cabinet, heureusement, dans un certain sens. Autre blessure qui n'est pas comptabilisée, c'est celle des traumatismes psychologiques. Et c'est vrai que les manifestations, aujourd'hui, par moments, peuvent avoir des airs de champ de guerre. On voit beaucoup de sang en manifestation. En tout cas, moi, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, je n'ai pas fait une manif à Lyon sans avoir vu quelqu'un en sang ou quelqu'un faire une crise de panique. Alors ça, plus les grenades de désencerclement qu'on constate vite sont utilisées sans précaution, l'air densément chargé de gaz lacrymo, les CRS qui insultent, menacent et chargent, matraquent à la main, ça peut créer des traumatismes pour certaines personnes. Et il y a en ce moment une polémique en cours. Depuis le début du mouvement, il y aurait plus de blessés parmi les manifestants, c'est-à-dire 1700 si on prend les chiffres du ministre de l'Intérieur, que de blessés parmi les membres de l'armée française depuis 1969. C'est vrai que la comparaison n'est pas forcément adéquate, surtout parce qu'on ne sait pas exactement dans les deux cas quels types de blessures sont prises en compte et
lesquelles ne le sont pas. Il pourrait donc y avoir un écart dans ces critères. Mais sur la période 2007-2016, donc sur 10 ans, le service de santé des armées déclare 620 blessés sur des opérations extérieures à la France. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Moi, j'en tire la conclusion que l'armée française à l'étranger est quand même mieux protégée que les manifestants en France.
Oh. Alors, on enchaîne donc. On reviendra un peu sur les gilets jaunes derrière. Mais du coup, là, avec une bonne nouvelle, hein, il en faut quand même quelques-unes, puisque à Tarascon ce matin, donc, un détenu a réussi à s'évader. Alors, non pas directement de la prison, je vais vous expliquer. Bon, déjà, pour rappel, hein, nous, on n'aime pas bien les prisons et on adore les évasions, donc, et surtout quand elles se passent globalement bien. Et en l'occurrence, ça s'est déroulé correctement, donc ce matin. Un détenu âgé de 27 ans, qui, selon le procureur de Tarascon, était, je cite, dans le spectre de la grande délinquance. Alors, j'ai vérifié, hein, il aurait donc 14 mentions au casier judiciaire que pour des petites affaires de vol ou de trafic de stupéfiants. Donc, on est vraiment dans le spectre de la grande délinquance. Il était donc incarcéré à Béziers et devait voir un juge d'instruction à Tarascon pour vol aggravé. Alors, j'ai vérifié également aggravé, les circonstances aggravantes, c'est commis par plusieurs personnes. Si vous êtes deux, c'est vol aggravé. Si c'est commis par une personne qui se fait passer pour un flic, bon. Si c'est commis dans un transport en commun, c'est aggravé. Si vous avez dégradé, si vous avez fait un petit tag au passage, c'est vol aggravé. Ou si même vous avez eu l'audace de vous dissimuler le visage, c'est vol aggravé, puisque pour voler, c'est mieux de le faire à visage découvert, c'est bien connu. Bref, bon, je vous passe les détails, mais tout ça pour dire que c'était vraiment du lourd, quoi. Donc, en l'occurrence, à 8h30 ce matin, deux types armés, visiblement ses potes, hein, ont fait irruption aux abords du palais de justice devant le véhicule de la pénitentiaire qui transportait le détenu, ainsi que trois agents de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire des matons, eux aussi armés, qui ont d'abord tenté de s'enfuir avec le détenu. Du coup, les deux comparses du détenu ont tiré pour stopper le véhicule, sans blesser quiconque, et le tour était joué. Ils ont sorti leurs potes du fourgon et se sont enfuis, pour le moment, sans se faire attraper. Donc, une affaire rondement menée, comme on dit. Quant aux trois matons, ils sont légèrement blessés et seraient visiblement très choqués, mais on a un bon conseil à leur donner, eh bien, arrêtez et changez de métier. Voilà.
Ah. C'est tout simplement ça.
Une bonne nouvelle quand même, on en aura peut-être une autre un peu plus tard quand on reparlera des gilets jaunes. Mais avant, je vais vous dire deux mots sur l'étrange manifestation qui a eu lieu à Paris hier et où il paraît 10 000 personnes, qui s'appellent eux-mêmes les foulards rouges, donc 10 000 foulards rouges, ont manifesté pour, et là je les cite, pour la défense de la démocratie. Ah. Petit exemple de slogan, oh. Oui à la démocratie, oui à la démocratie, non à la révolution. Comme ça, pas de doute sur leurs idées. Ils se disent aussi contre les violences. Allez. En bref, pour eux, on vit déjà presque dans le meilleur des mondes. Et si à la limite, on peut accepter que des gens veuillent se plaindre un peu, mais manifester et bloquer le pays, c'est pas des manières civilisées. On demande poliment et on attend qu'on veuille bien s'occuper de nous. J'exagère à peine, c'est vraiment pas loin des propos extrêmement hautains et paternalistes qui sortent de la bouche de ces gens qui ne voient pas de raison pour les gilets jaunes d'être en colère. Que ce soit l'idée que c'est aux gens de s'en sortir par eux-mêmes avec l'éternel argument... le mythique argument des assistés qui ne savent rien faire d'autre que toucher des aides, bien qu'on sache maintenant depuis longtemps qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, d'ailleurs tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de travailler autant que ce qu'on veut nous le faire croire, ou bien l'argument d'une France qui serait une république indivisible, un bon vieil argument nationaliste pour faire oublier tous les rapports de domination, ou encore leur dénonciation de la violence, mais pas de la violence policière, qui, on vient de le voir, tue et mutile. Moi, j'ai beaucoup de mal à les plaindre, ces foulards rouges. Ces gens-là se considèrent comme la majorité silencieuse. Alors je veux bien croire que ces gens-là n'aient pas l'habitude de gueuler dans leur vie de tous les jours pour se faire entendre. Par contre, qu'ils représentent la majorité, j'ai un peu plus de mal à le croire. Je ne suis pas parisienne, je ne suis pas allée les voir manifester. Par contre, je me suis amusée à relever les professions des personnes interrogées dans les articles de presse que j'ai lus. Le Figaro cite les propos d'un DRH, un psychiatre à la retraite et un couple de chercheurs. Mmh. Sur Le Monde... qui dit pourtant que ces gens représenteraient toutes les franges de la population. On cite un cadre bancaire, une cadre médicale et le président du groupe de La République En Marche au Sénat, et aussi le président de l'Assemblée nationale. Alors oui, dans tout ça, il y aurait quelques personnes qui ont juste peur du fascisme, et j'avoue que moi aussi, des fois, je ne sais pas trop où on va. Mais se sentir pris en otage dans sa liberté de consommer quand des gens refusent de se faire encore et encore écraser, quand des gens expriment une colère légitime contre des inégalités toujours plus folles, se sentir pris en otage par ces gens-là, c'est clairement pas être du bon côté. Arrêtez de vous émouvoir pour un abribus. Réveillez-vous, arrêtez un peu de regarder la télé et ne restez pas du côté des gens qui ont intérêt à ce que rien ne change. On est quand même déjà bien désorienté quand les rouges sont contre la révolution et que ce sont les jeunes qui s'en prennent au pouvoir.
Ah. Oui.
Les rouges.
Ça fait peur.
On reprend sur les gilets jaunes du coup.
On reprend sur les gilets jaunes et on va reprendre donc là sur une partie un peu moins réjouissante hein, des gilets jaunes, alors qu'on connaissait déjà depuis plusieurs semaines, mais sauf que là il y a eu une augmentation ces dernières semaines de la violence au sein des manifestations des gilets jaunes, non pas ce coup-ci par les flics, mais par les FAF, hein, les fachos. Alors à Paris samedi, eh bien les FAF s'en sont pris. Au cortège, hein, ils ont pris la confiance puisqu'ils ont agressé à deux reprises un cortège composé en grande partie de militants du NPA, donc le nouveau parti anticapitaliste. Ce seraient donc les zouaves, des anciens du GUD, proches du bastion social, hein, qui auraient commis l'attaque à une cinquantaine et pour la deuxième fois de la manif, donc au niveau du boulevard Diderot à Paris. Ils attendaient le passage de cette partie du cortège et l'ont attaqué avec du matériel de chantier. Ils étaient pour la plupart cagoulés. Et pendant l'agression, ils ont eu la subtilité de faire référence à Clément Méric. Hein. Je parle bien des FAF. Alors Clément Méric, pour rappel, il a été assassiné en 2013 par Esteban Morillo, qui était membre de Troisième Voie et des Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires à l'époque, mouvement de Serge Ayoub, tout ce petit monde. Hein, les anciens des JNR, du Bastion Social, etc., se connaissent et sont potes. Et agressent donc dans les manifestations lors de cette agression. Deux militants du NPA ont été sérieusement blessés. Bonne nouvelle à l'inverse à Caen, hein, en Basse-Normandie. Une quinzaine de militants, membres du Parti de la France, de Génération Identitaire et des Soraliens, se sont fait, eux, virer de la manifestation au cri de « Facho, cassez-vous ». Donc bravo aux potes, hein, c'est une bonne réaction et on espère qu'elle aura lieu dans la plupart des villes où les fachos attaqueront. Alors justement... sans transition aucune, mais toujours sur le même sujet, mais on va passer à Lyon, puisque vous le savez, à Lyon, capitale des FAF, hein, la plupart des chefs d'Action Française, du Bastion Social et autres joyeuseries eh bien, sont à Lyon. Ils sont nombreux, ça fait la troisième semaine consécutive qu'ils arrivent à 40, 50, voire 60 organisés en manifestation et qu'ils attaquent des personnes dans le cortège. Alors, soit parce que ces personnes ont des têtes qui ne leur reviennent pas, peut-être un peu trop noir, un peu trop arabe, ou considérant que ce sont donc des gauchistes, probablement, ils décident de les attaquer. Alors, la semaine dernière, il y a eu une bagarre rangée hein, qui a eu lieu, qui a fini par le fait que certains de la manifestation se sont fait courser par ces fachos qui voulaient leur casser la gueule. Hein. Il y a eu quelques blessés, de part et d'autre d'ailleurs. Samedi, petit changement ce coup-ci. Donc, ils ont décidé d'attaquer également, c'était à la Guillotière, hein, pas loin de l'arrêt de métro, la Guillotière, qu'ils ont décidé d'attaquer le cortège. Et le cortège s'est biffé et a réussi finalement à les faire partir au cri de « Facho, cassez-vous, facho, cassez-vous, facho, cassez-vous ». Ce qu'ils ont fini par faire, se sentant menacés, et c'est tant mieux. Par contre, ils ont à nouveau réattaqué des membres du cortège un peu plus tard, pas loin de Bellecour, et pris en chasse à nouveau probablement des militants, ou en tout cas des gens de la manifestation. Donc, il y a un appel jeudi à une réunion qui aura peut-être lieu à la Bourse du Travail, c'est pas encore certain, mais en tout cas, il y a un appel pour s'organiser contre cette présence fasciste dans nos manifestations à Lyon, et ce sera le cas aussi dans les autres villes. Alors, nous refusons systématiquement la présence des fascistes dans nos manifestations et organisons-nous correctement pour les virer.
Oui, on va... passer du coup tout de suite à l'agenda. Peut-être qu'on peut commencer par parler de l'Amphi-Z rapidement.
Alors, l'Amphi-Z, donc vous le savez probablement, si vous nous écoutez de manière assidue tous les lundis, l'Amphi-Z, c'est un squat à Villeurbanne qui appartient aujourd'hui à la métropole et qui, sur cette même parcelle, hein, est voisin avec deux autres squats, où logent, sont hébergés 350 migrants. L'Amphi-Z, donc, est menacé d'expulsion et passe en procès ce lundi. au tribunal d'instance de Villeurbanne. Il y a donc un appel à rassemblement devant le tribunal d'instance de Villeurbanne à 9h.
Donc c'est lundi 4.
Lundi 4 février à 9h devant le tribunal d'instance de Villeurbanne, en soutien donc aux 200 personnes qui sont hébergées, qui logent à l'Amphiz et plus largement à tous les habitants donc, de cette parcelle hein, qui sont menacés d'expulsion par la métropole.
Voilà, alors pas grand-chose dans l'agenda pour la suite, mais je vais quand même signaler quelque chose qu'on ne fait jamais, parce que ça a lieu le lundi soir en fait, mais c'est dommage de rater cette information. Il existe une permanence juridique de soutien aux sans-papiers tous les lundis soirs de 18h30 à 20h à la Lutine au 91 rue Montesquieu, Lyon 7, donc c'est peut-être un peu tard pour cette semaine, mais c'est possible la semaine suivante. Mardi, demain, au Clameur. Une discussion autour du thème hébergement populaire des réfugiés, alternative, choix de société ou soupape. Quelque chose dont je n'ai pas entendu parler, mais peut-être que ça vous intéressera. À 20h, vous pouvez aller à la 6e cérémonie des Doigts d'Or, les Oscars du capitalisme, au Palais de la Mutualité. Mercredi 30 janvier, ciné-débat eau et agriculture à 19h à la Balise 46, MJC de Villeurbanne. Et on va s'arrêter là pour cette semaine et on laissera les autres canuts infos.
Il faut continuer les infos.
Ouais. Voilà. Et là, si vous ne savez pas quoi faire, au-delà d'écouter le Radio Canu, eh bien, y a une assemblée générale des Gilets jaunes à la Bourse du Travail qui a dû commencer il y a une demi-heure environ.
Normalement, ouais. Ouais. Nous, on y va. On à y tout va. À l'heure. Et à la semaine prochaine, sinon.
Ouais.
Au revoir.
Allez, au revoir.
Ciao. Drive.